Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des bifurcations. Ici, on suit les nouvelles pistes, on repère les points de bascule, on se découvre des embranchements. À ce qui paraît, la loi climat adoptée la semaine dernière a été qualifiée de tournant. C'est Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui l'a dit.
Jamais vous ne m'entendrez dire que c'est suffisant parce que c'est un combat de tous les jours. Mais cette loi, ce qu'elle a d'important, c'est qu'elle va faire rentrer l'écologie dans la vie des gens.
Tournant ou petit virage, avancée ou détricotage, on n'en débattra pas ce soir. Mais oui, en revanche, l'écologie est entrée dans nos vies. La question est de savoir ce que l'on en fait, puisque le temps presse.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds?
Ce soir, et si on réparait le monde avec deux super-héros, la chanteuse ailée Émilie Loiseau que l'on a entendue à l'instant et l'architecte augmenté Nicolas Delon.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Jusqu'à 19h, on fait chauffer les concepts, mais pas la planète sur France Inter.
Il veut soigner tous mes maux, mais je lui dis d'aller doucement. Il veut effacer mes doutes et mes peines et s'attendrement. Mais moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pipi. Coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you drive. I make promises to call. Mais moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je vais ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon, c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive, y'a pas de débat, c'est moi la pépite.
Mobilisation internationale de toutes les énergies dans le sillage d'Aya Nakamura, la pépite d'Aulnay Sous-Bois, accompagnée du Major Lazer sur France Inter, c'est cuit. Mais non, c'est pas cuit. Pour lui, habitation et habitabilité du monde sont indissociables. Co-fondateur du collectif Encore Heureux, il défend une approche à la fois plus sobre et plus large de l'architecture. Plus sobre en matériaux et en utilisation de ressources, comme l'a montré une première exposition Matière grise, plus large parce qu'en prise directe avec les sciences humaines et les actions citoyennes, comme il l'a montré dans l'exposition Lieu infini, représentant la France à la Biennale d'architecture de Venise. Aujourd'hui, avec une nouvelle exposition présentée actuellement au 104 à Paris, il tente tout simplement de réparer le monde. Nicolas Delon, bonjour et bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est pas cuit ?
C'est pas cuit, mais c'est chaud, on pourrait dire. C'est chaud, voire très chaud. Et je pense que cette intensité que l'on voit apparaître, pointer très proche de chez nous et à l'autre bout du monde, doit nous questionner sur l'intensité des réponses à apporter.
Dans cette exposition Énergie, désespoir, un monde à réparer, vous ajoutez et vous assumez finalement dans votre démarche la dimension affective.
Oui, le point de départ sur ce travail collectif mené avec l'École urbaine de Lyon également et l'artiste Bonnefrit était de partir du principe que ce qui nous affecte est partageable et pour s'attaquer à ces sujets qui en gros est le sujet de l'habitabilité du monde, de nos villes, de nos territoires et de ce petit caillou là perdu dans l'univers. Quand on est architecte, notre rôle, notre fonction, notre mission, c'est de faire en sorte que les gens puissent habiter. Et on commence à sentir et à voir poindre des éléments nous faisant penser que des grandes parties ne seront plus habitables. Et donc c'est cette question-là qu'on a voulu partager en la partageant d'une manière très intime, en partageant des peintures, des dessins qui d'un côté montrent les grands désespoirs et de l'autre côté pointent les énergies qui nous semblent être des moteurs pour la suite.
Donc il y a le dépassement en fait d'une dichotomie aussi entre, je sais pas, réchauffiste, méchant réchauffiste et gentil refroidisseur.
Alors, ça pourrait être sous cet angle-là, c'est aussi l'idée que peut-être l'hypothèse que nous formulons est que nous avons besoin de continuer à partager les périls, les échanger, les préciser. Aujourd'hui, on a la communauté scientifique qui nous alerte, mais qui alerte déjà depuis les années 70, et en fait, on ne les écoute pas. Donc, il y a cette urgence à écouter les sachants. On voit la crise actuelle nous a aussi obligés à écouter ceux qui peuvent nous sortir de là. Et en parallèle, montrer que des alternatives multiples et de petite taille sont en train d'émerger un peu partout sur la planète.
Alors, vous le rappelez dans le texte de présentation, l'habitabilité même du monde est compromise, c'est ce que vous venez de dire encore une fois, il y a un climat de plus en plus déréglé, une biodiversité exsangue, une interminable succession en effet d'alertes rouges qui ne semblent pas toujours audibles, et aussi peut-être, avant de parler des initiatives, ce qui peut grever un peu l'affaire, ce sont les faux ajustements.
C'est les faux ajustements, c'est l'idée des petits pas qui seraient nécessaires. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment une question d'échelle de ce changement global, de cette anthropocène, de cette période depuis l'ère industrielle, en gros, dans laquelle on est rentré, où l'homme a modifié les conditions climatiques et donc la possibilité de vie sur Terre. Et donc, c'est vrai que une question qui nous obsède, c'est à quelle vitesse faut-il engager les changements d'habitude, considérant que, de manière naturelle, l'homme prélève des ressources, extrait des minerais, utilise tout ce qui est à sa disposition. Donc la question qu'on se pose, c'est de quelle manière il faut trouver d'autres manières d'habiter. Et l'autre question qu'on
moins
peut se poser...
Moins extractiviste.
Exactement. Alors, extractivisme, qui est un mot
très utilisé en ce moment,
qui semble compliqué, mais qui est l'idée tout simplement d'aller chercher des minerais de plus en plus loin, d'aller chercher des ressources naturelles que l'on pensait renouvelables et qui, par exemple, comme les bancs de poissons que l'on pêche de plus en plus intensément, sont en train de s'épuiser. Et donc, on voit bien qu'il faut retrouver une mesure, une juste mesure, avec en parallèle une population qui augmente de 200 000 personnes par jour. C'est ça, en fait, le défi de notre temps. C'est vraiment ce déséquilibre, ce double déséquilibre.
Alors, au 104, à Paris, vous présentez donc 50 panneaux, 50 affiches très graphiques et efficaces, un peu comme des affiches de 68 qui étaient fabriquées comme ça aux Beaux-Arts pour mobiliser les foules, et vous mettez donc dos à dos 50 énergies et 50 désespoirs, 50 initiatives positives, 50 données catastrophiques. Bah, comme d'habitude dans la vie, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Exemple d'une affiche présentée, d'ici 2100, la moitié de la population mondiale sera exposée à des températures mortelles.
Oui, ce dessin qui représente pour les auditeurs une planète en train de s'enflammer, un peu comme une météorite que l'on pourrait observer en disant « Oh, c'est joli », en fait, se rendre compte que la planète est-elle en train aussi de s'enflammer à des endroits du globe. Et cette notion que nous avons découverte en faisant ce travail est d'imaginer que, en fonction du taux d'humidité de l'air, le corps humain ne peut plus vivre au-delà d'une certaine température. Et donc, c'est ce qu'on appelle des canicules humides. Et aujourd'hui, il y a des premiers exemples au Pakistan et dans le golfe Persique d'endroits où on ne peut pas rester dehors sous peine de disparaître et de mourir. Et donc ces canicules humides, qui sont un phénomène que les climatologues prévoyaient pour dans 30 ans, sont en train d'arriver aujourd'hui. Ça veut dire que des régions potentiellement entières de l'humanité vont se retrouver inhabitables. Et donc on imagine aussi les conséquences terribles de cette modification.
Alors, face à cela, des gens s'engagent, mais pourtant, autre affiche présentée dans la catégorie désespoir, militer pour l'environnement tue.
Oui, donc là, on commence par le plus dur, mais c'est important de vous dire que ce travail de recherche nous a aussi très fortement affectés, parce que c'est vraiment à la fois affronter la complexité de ces désespoirs et essayer de les préciser. Et encore une fois, de les partager pour peut-être augmenter notre conscience collective. Et donc là, cette idée était de rendre hommage aux militants qui s'engagent pour l'environnement. En 2019, il y a 212 militants de l'environnement qui ont été assassinés, qui défendent des parties de la forêt amazonienne, qui défendent des territoires traditionnels sur lesquels on voudrait extraire du gaz ou des minerais, et qui donc, au péril de leur vie, s'engagent pour cette extraction qui continue, en fait.
Alors, on ne va pas passer en revue tous les désespoirs, mais vous décidez d'organiser les désespoirs selon un principe du philosophe et critique d'art allemand Walter Benjamin. Ça veut dire quoi, organiser les désespoirs ou les pessimismes, pour être exact?
Oui, alors voilà, il parle plutôt des pessimismes, mais l'idée, c'est de, comme toujours, c'est de, une fois que l'on classe les choses et qu'on les range, on a l'hypothèse.
C'est la méthode
que
Marie Kondo adaptée.
C'est un petit peu ça. C'est en tout cas essayer de mettre de l'ordre pour que cet ordre-là soit une stabilité collective. Et c'est aussi une manière d'engager la discussion et le débat.
Alors, il y a aussi une organisation, plutôt une radiographie du positif, des changements qui sont à l'œuvre. Des slogans, par exemple, quitte à être la goutte d'eau, autant être celle qui fait déborder le vase que l'on a croisé dans les manifs de la jeunesse contre le réchauffement climatique et le dérèglement climatique.
We are on the outskirts of the biggest catastrophe humanity has ever faced and our government is doing nothing.
On se prend déjà des conditions climatiques extrêmes dans certaines régions du monde.
Mais maintenant.
Voilà, même maintenant. Quand il fait moins 40 degrés aux États-Unis et en même temps 40 degrés en Australie, c'est du jamais vu. Il y a des tempêtes climatiques, il y a des grands bouleversements.
Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Les jeunes en grève pour le climat, la jeunesse mobilisée à travers le monde, des sons de France 24, d'AFP, de Reuters, c'était durant l'année 2019, lorsque, avant la crise sanitaire, on pouvait se rassembler. Cette jeunesse, elle vous inspire donc, puisque vous réunissez les slogans à la fois désespérés et positifs qu'elle a pu brandir.
Oui, on voulait ajouter dans l'exposition cette clameur de la rue et cette jeunesse qui a peut-être ce coup d'avance sur les personnes aujourd'hui en responsabilité, et en tout cas qui ont ce message assez simple en disant c'est nous qui allons récupérer tout ça. Et donc les inactions d'aujourd'hui sont les désastres de demain. Et donc on a voulu rendre hommage à ces mouvements diffus et à ces slogans qui sont parfois décalés, parfois humoristiques, mais qui nous semblaient être une forme de pensée aussi en lien avec cette urgence climatique et démocratique aussi, parce qu'on voit bien que tout est lié, on peut pas d'un côté séparer les choses.
C'est justement l'une des personnalités, je dirais, qui signe aussi le catalogue de cette exposition, puisque des écrivains, des penseurs s'associent à vous, notamment François Jemaine, qui est spécialiste de l'Anthropocène et qui est spécialiste des géopolitiques, d'environnement, de questions d'immigration et d'émigration. Voilà ce qu'il dit à propos de la situation actuelle. Lui qui fait très bien le lien, justement, entre la crise climatique et la crise démocratique.
À notre échelle humaine, honnêtement, je pense que le mieux qu'on puisse faire à l'heure actuelle, c'est avant tout de limiter les dommages. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement, en tout cas sur une échelle d'un siècle ou deux, revenir en arrière. Le niveau des mers ne va pas redescendre. Le taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne va pas redescendre subitement. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de limiter au maximum les dommages. C'est pour ça que je n'aime pas la présentation parfois un peu binaire du climat, comme si c'était gagné ou perdu, on a 10 ans ou 12 ans pour agir et pour sauver la Terre. En réalité, on a déjà perdu une grande partie de la bataille. La question aujourd'hui, c'est pas d'éviter la sortie de route, c'est de limiter le nombre de tonneaux qu'on va faire.
À partir du moment où on pense plutôt en nombre de tonneaux à limiter qu'en sortie de route, on est sur la bonne voie. Pardon pour cette métaphore filée, Nicolas Delon.
On est en tout cas dans la conscience de cette complexité. Et je pense que c'est aussi un gros défi collectif, c'est d'accepter cette complexité. Et d'accepter que justement, c'est pas oui ou non, c'est pas simplement stop ou encore, mais c'est comment s'accorder avec cette transformation, avec ce vivant qui de toutes parts se fissure. Mais surtout, ce qui était très intéressant et fascinant, c'était de voir que les changements ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y a des effets de bascule, il y a des points de non-retour, il y a des moments où tout d'un coup, le phénomène s'emballe. Et donc, c'est là notre capacité d'anticipation qui devrait être démesurée. En fait, se trouve être plutôt une capacité d'inaction où on se rend compte qu'on va avoir des micro-lois climat qui ne feront avancer ni un sujet ni l'autre et qui sont comme les COP 21 ou 22 ou 23 qui se succèdent. Et dans l'exposition, on montre un graphique des émissions de CO2 avec chaque fois les années des COP et on voit bien qu'il n'y a aucune corrélation entre ces réunions et puis la courbe qui continue de monter.
Alors, selon l'organisation WWF France, la loi climat, en tout cas, elle resterait très éloignée des objectifs climatiques et des attentes des citoyens. Il y a des choses très concrètes quand même dans cette loi climat, comme des actions aussi très concrètes que vous présentez dans cette exposition. Par exemple, il y a des gens qui roulent au caca à Oslo. C'est une alternative aux énergies fossiles. Et puis, il y a cet exemple marseillais qui est assez formidable. Ça s'appelle l'après-M. Vous pouvez nous raconter, Nicolas Delon?
Oui, cet exemple symbolique est pour nous assez fort. C'est un McDonald's, donc un restaurant, un fast-food des quartiers nord de Marseille qui a été mis en liquidation judiciaire. Et fin 2019, les salariés ont décidé de l'occuper et de rester dans ce lieu qui était leur outil de travail. Et puis le Covid est arrivé et ils se sont rendus compte que des gens étaient en train littéralement de mourir de faim dans les quartiers nord de Marseille. Et donc ils ont décidé de réouvrir le restaurant et d'en faire un restaurant solidaire. Donc ils ont inversé les lettres de McDonald's, ils l'ont appelé l'après-M. Ils ont repeint la façade et ils ont distribué jusqu'à 3500 colis par semaine en un restaurant ouvert, solidaire et qui montre ces renversements assez incroyables. Et donc là, pour ce dessin-là, on a dessiné le clown Ronald McDonald qui a pris le chapeau de Robin des Bois et cette inversion de symbole et qui nous semblait intéressant et en tout cas à raconter.
Il y a une autre image très forte, une affiche qui reprend un slogan des actions de squat à Paris, encore un putain d'immeuble vide qui le corrèle à une initiative qui est née à Seattle, qui s'appelle Housing First, et qui a pu réduire de 72% le nombre de SDF dans la ville de Seattle, tout simplement en convainquant la ville que ça coûte plus cher, finalement, en soins sociaux et en suivi, de laisser les gens à la rue que de les reloger. Ça a essaimé à Bruxelles, à Denver, au Canada, en Écosse, en Sicile et en Finlande. Autre signataire de ce catalogue, c'est un peu une pétition aussi, un manifeste catalogue, Mathieu Pot-Bonneville, qui travaille au Centre Pompidou, qui est philosophe français aussi. Il y dirige le département culture et création. Il parle en fait de l'hétérotopie. Pour lui, c'est la bonne voie entre utopie et dystopie, deux notions dont on parle beaucoup dans un monde nouveau, c'est-à-dire le côté sombre et le côté clair.
Oui, ce qui est intéressant dans cette notion, c'est là aussi, ça rajoute de la complexité. C'est-à-dire accepter que chaque situation doit être regardée dans son contexte, mais aussi en lien avec les dépendances des situations externes. On ne peut pas, par exemple, séparer la question de l'alimentation de la question de l'agriculture, la question de l'agriculture de la question des énergies, la question des énergies de la question du transport. Et en fait, cette exposition essaie de partager cette complexité, cette entrée multifactorielle ou sectorielle. Et c'est passionnant intellectuellement. Et du coup, ce qui nous révolte, c'est comment c'est notre incapacité à engager des actions qui seraient à la hauteur de ce constat qui est aujourd'hui inattaquable.
Alors, des actions, il y en a, et vous les découvrirez en allant dans cette exposition ou en feuilletant ce catalogue. La bonne nouvelle, c'est que c'est en accès libre, Énergie des Espoirs, un monde à réparer à Paris, au 104 jusqu'au 29 août. Merci Nicolas Delon.
Merci beaucoup.
De coaching pour parvenir à transformer ce monde. Let you speak, laissez-vous parler. C'est le bon conseil de Mead avec un premier album paru au printemps, qui a bourgeonné même au printemps, Born a Loser.
Un monde nouveau. Mathilde Serrel sur France Inter.
Le monde est déjà nouveau sur France Inter. Reste à pister les signes de transformation. Pour cela, nous sommes associés à de fins limiers, Benoît Tonson du média en ligne The Conversation et Emmanuel Vibert de la revue Oui Demain. On commence avec vous, Benoît, chef de rubrique Science à The Conversation, pour une séance de prospective alimentaire.
C'est étonnant, c'est... On sent vraiment les fibres du muscle, enfin comme si on avait coupé une vraie tranche de viande en fait.
Benoît, on vient d'écouter la réaction d'un journaliste d'Envoyé spécial sur France 2 en train de goûter de la viande artificielle.
Oui Mathilde, pour décrire ce qu'il a dans son assiette, ça ressemble à une fine tranche de filet de bœuf. Et ce journaliste est finalement assez surpris par la texture de ce qu'il est en train de déguster. Il semble retrouver quelque chose d'assez proche de la viande classique, entre guillemets. Il faut savoir que ce faux steak a été produit par la start-up israélienne Aleph Farms. Et c'est vraiment sur la texture qu'ils ont grandement amélioré ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent ressemblait davantage à de la viande hachée grossièrement qu'à un vrai steak de boucher.
Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de manger concrètement? C'est quoi cette viande artificielle?
C'est vraiment du bœuf, plus précisément des cellules de bœuf cultivées en laboratoire. Alors, je vous donne la recette à vos carnets. Premièrement, vous trouvez une vache. Vous prenez une seringue et une grosse aiguille. Vous lui faites une ponction pour lui prélever quelques cellules souches de muscle et vous mettez ces cellules dans une cuve. Vous faites multiplier ces cellules un très grand nombre de fois pour tenter de reconstituer un muscle. Ce que vous allez obtenir, c'est une viande artificielle sans avoir à abattre l'animal. Enfin, plutôt quelque chose qui va ressembler à un steak haché. À un amas de tissu musculaire qui n'est pas tout à fait de la vie. Et certaines startups comme Aleph Farms, dont on parlait, tentent de reconstituer le muscle dans sa globalité. Pour lui donner la bonne forme, mais également rajouter des vaisseaux sanguins, des nerfs et même du gras. Ce qui est très compliqué, c'est d'arriver à créer des pavés de viande artificielle épais. On est plutôt à la création de tissus très fins, ce qu'il était en train de manger.
Et au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne?
Malheureusement, j'ai pas eu l'honneur de tester ces produits, donc je pourrais pas témoigner. Mais on peut quand même dire plusieurs choses, comme l'expliquait Jean-François Hoquette, de chercheur à l'INRAE, dans un podcast pour The Conversation. Alors le premier problème, c'est le fait de ne pas réussir à faire des produits épais. Ils contiennent suffisamment de gras, car c'est bien lui qui va fixer les arômes, notamment pendant la cuisson, et donc donner du goût. L'autre chose, c'est le manque de maturation. En fait, ce qu'on appelle de la viande, c'est le muscle qui a vieilli plusieurs jours. Et pendant cette période, le muscle va s'attendrir naturellement et les arômes vont se développer. Et ça, pour l'instant, Mathilde, on ne sait pas le faire en laboratoire.
Elle est à la fois trop fine et trop jeune, cette viande artificielle.
C'est ça.
On sait que la production de viande produit aussi du gaz à effet de serre en grande quantité et donc du réchauffement climatique. La viande artificielle apporterait-elle donc des solutions d'un point de vue environnemental?
C'est vrai que selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'élevage produit environ 15% des gaz à effet de serre de nos émissions totales. C'est à peu près l'équivalent du domaine des transports. Donc si on peut baisser la part de l'élevage, il faut le faire. Et pourquoi l'élevage est émetteur de gaz à effet de serre? c'est parce que les herbivores produisent du méthane lors de leur digestion, un gaz encore plus réchauffant que le CO2. Donc si on a moins d'animaux dans les prés, fatalement on aura moins de méthane. Mais il reste un problème côté viande artificielle, un gros problème. Parce que pour faire multiplier ces cellules, on doit les placer dans des incubateurs, des sortes de grosses cuves dont la température doit être portée à environ 38 degrés. En fait, c'est la température du corps de la vache. Et si l'on veut produire en masse, donc de façon industrielle, il faut des incubateurs de milliers de litres. Et pour les chauffer, de l'énergie et donc du CO2. Donc d'un côté, moins de méthane, de l'autre, plus de CO2. Et selon les dernières études, la production de viande artificielle serait plus nocive pour le climat à long terme.
C'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée.
Oui, finalement, la viande artificielle permet de manger quelque chose se rapprochant du goût de la vraie viande, sans souffrance animale. Mais ce n'est pas la solution miracle. On pourrait plutôt conseiller de réduire drastiquement notre consommation de viande et d'apprendre à cuisiner les légumes au barbecue cet été. Mais pour ça, je laisserai votre collègue François-Régis Gaudry vous donner ses meilleures recettes.
On va déguster. Merci Benoît Tonson. Je rappelle que vous êtes chef de rubrique Science à The Conversation France, média qui traite l'actualité au prisme de la conversation scientifique. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter un dossier spécial viande artificielle sur theconversation.com. À vous Emmanuel Vibert du trimestriel Oui Demain. Et vous allez nous parler vous aussi d'une autre solution potentielle. On va voir si elle n'a pas également son revers. C'est pour sortir enfin d'un terrible dilemme, comment continuer à voyager au-delà des mers sans plomber son bilan carbone.
C'est ça Mathilde, et si on ne comptait que sur le vent, ou presque, pour parcourir le monde? Et si on maillait les océans d'un réseau de lignes régulières de bateaux à voile, exactement comme la Terre est parcourue de chemins de fer? C'est ce qu'imagine la toute nouvelle entreprise baptisée SailCop. Son idée, c'est de créer une véritable alternative à l'avion et aux ferries dont le bilan climatique est insoutenable. C'est une grande ambition, mais elle est réalisable à moyen terme d'ici quelques années, pourquoi pas? Et pour réussir, SailCop commence dès fin septembre prochain par ouvrir une première liaison vers la Corse. Imaginez, vous embarquez vers midi dans le port de Marseille ou de Saint-Raphaël. Et vous arrivez 24 heures plus tard à Calvi ou à Bastia. Entre-temps, vous avez glissé sur la Méditerranée, sans dégager de CO2, sans faire de bruit, ce qui est aussi une forme de pollution grave en mer. Oui. Même pas besoin de fabriquer des navires pour ce nouveau service. En France, les quelques 200 000 voiliers de plaisance passent en moyenne 97,8% de l'année à quai, au repos. SailCop a l'intention de louer une partie de ses embarcations en sommeil. À terme, ils envisagent de créer des lignes régulières vers des destinations proches comme les Baléares, la Sicile, le Royaume-Uni. Mais en attendant, dès le printemps 2022, ils veulent nous embarquer pour l'Amérique. Une transatlantique, carrément, avec une flottille de 50 bateaux environ. Le projet de SailCop, c'est par ailleurs d'agréger toutes les énergies qui vont dans le même sens. Tout le monde peut devenir sociétaire de la coopérative.
Mais est-ce que c'est pas vraiment déconseillé à certains publics, notamment peut-être les personnes âgées, dans des cabines un peu exiguës, etc., ces voyages de SailCop?
Il est certain qu'on ne va pas convertir tout le monde au voyage en voilier du jour au lendemain. Dormir dans la coque toute petite d'un navire, faire face aux embruns, supporter la houle, n'est pas fait pour tout le monde. Chez SailCop, on rêve qu'un jour de grands voiliers spécialement conçus pour le confort des passagers rendront ces odyssées plus douillettes. Mais d'ici là, pour en être, mieux vaut être en bonne forme, ne pas craindre l'inconfort ni le mal de mer, évidemment. Et pour les destinations lointaines, il faut aussi disposer de longues plages de temps.
Pour un petit La Rochelle-New York.
Voilà, un petit La Rochelle-New York, et ben ça se fait pas en un coup d'avion, en une demi-journée. Il faut compter entre 25 à 30 jours de navigation. En fait, réussir ce grand réseau de lignes maritimes implique la diffusion d'une autre culture du voyage. Les touristes version SailCop s'en fichent de partir ou d'arriver pile à l'heure. Ils s'adaptent aux aléas de la météo, aux saisons même. Ils suivent le rythme des vents ou des tempêtes. N'empêche, l'objectif est de démocratiser le transport à la voile. Pas besoin d'avoir une quelconque compétence de marin pour monter à bord. Mais au passage, vous commencerez immanquablement à vous former à la navigation.
C'est aussi donc la naissance d'un autre profil de touriste que propose SailCop. Mais est-ce que c'est aussi un tourisme accessible ?
Ça l'est, Mathilde. Les prix restent comparables à l'avion ou au ferry. Un aller en Corse, ce sera maximum 150 euros. La transatlantique coûtera évidemment plus cher qu'un billet d'avion sur le même trajet. 2 000 euros maximum pour un aller, mais pour un mois, logé, nourri, à vivre sur les flots, une expérience hors norme et pionnière, c'est plutôt correct, non ?
Bah écoutez, j'achète, je prends le pack. Oui, demain, je prends le bateau avec vous, Emmanuel Vuber. Rendez-vous sur le site de selcop.fr. En tout cas, pour ceux qui veulent réserver, c'est dès le 1er septembre. Les billets pour la Corse seront mis en vente. Rendez-vous en kiosque avec le dernier numéro de Oui Demain, le média pour changer d'époque. Elle creuse son sillon musical depuis une quinzaine d'années et une dizaine de disques. Chanteuse et pianiste franco-britannique, elle s'est créée un univers à part, une bulle artistique hors des modes, mais pas du monde et de ses préoccupations. Depuis l'Ardèche, elle bêche et compose ses titres comme Renversé, extrait de son nouvel album à paraître en septembre, un appel à renverser nos idées et mettre la base en premier. Émilie Loiseau, bonjour et bonsoir. Bonjour. Vous êtes venue comment ? À la voile ? En bateau ?
Alors, je suis venue en bateau, puis en train. J'ai dû passer par le car, ça c'est pas terrible. Et puis je suis arrivée aussi en taxi de la gare, donc j'ai pas tout bon.
Vous avez pas tout bon, mais vous évaluez votre bilan carbone, il est comment ? Il est orange ?
J'essaie qu'il soit un peu moins qu'orange, j'essaie de me rassurer.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner. Est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire, devant lui se tient un miroir. Tu ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, ton enfant qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi.
Traverser la Manche, je ne vous dirai pas comment, elle nous le dira à la nage, peut-être dans un Eurostar, un train, quelque part, à la voile, ou pourquoi pas, avec un petit deltaplane. Émilie Loiseau, c'est notre chanteuse ailée, le nouvel album s'appelle Icar, il a été enregistré en effet en Angleterre avec le producteur de PJ Harvey, John Parrish. Dans ce titre, Renversé, qu'on écoute depuis le début de l'été sur France Inter, vous parlez de cette terre qui nous parle et il n'y a qu'à se pencher pour l'écouter, c'est ce que vous avez fait.
Oui, j'ai eu envie avec ce disque effectivement d'écouter d'écouter le monde, de me laisser traverser par lui et de dire quelque chose de ça, comme j'écrirais un journal intime. Mais un regard intime qui irait vers le dehors. Et puis, c'était avant le Covid, le confinement, que j'ai commencé. Et puis, ce confinement est arrivé. Et finalement, ce geste est devenu extrêmement juste, en fait, puisque j'avais vraiment l'impression, effectivement, d'être de l'intérieur, essayer de s'adresser à l'extérieur. Donc, c'est ce geste-là que j'ai essayé de faire au travers de ce disque, d'être debout à l'écoute et à l'écoute de soi aussi, pour aller chercher le soi de l'autre.
Oui, alors c'est l'hétérotopie aussi, d'une certaine manière, dont parlait tout à l'heure
exactement
Nicolas Delon. Vous parlez aussi dans ce titre, qui est donc le premier single de l'album, et qui est un single annonciateur, un single qui pose les bases de ce qui va sortir le 17 septembre. C'est vraiment tout un album construit autour de ce que vous percevez des enjeux climatiques et de la réponse, ou en tout cas du soulèvement que vous aimeriez provoquer. En tête du cortège, ton enfant qui se soulève, tu portes en lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi. C'est la tempête, écrivez-vous. C'est une chanson et un appel, on va dire, à suivre le sillage des générations et des manifestations pour le climat dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est un appel que j'ai eu envie de penser comme un hymne à ma génération, qui est donc une génération en âge d'avoir des enfants qui ont devant eux un avenir lourd à porter. C'est difficile pour eux de voir de la lumière au bout de tout ça. Et pourtant, il faut. Et d'ailleurs, chaque jour où je me dis mais c'est impossible, je continue de me battre pour me dire que je suis au seuil d'un rêve et que c'est une lucidité joyeuse que je veux avoir et que je veux donner à mes enfants d'ailleurs. Donc cette chanson, c'est ce message-là que j'essaie de transmettre aux gens de mon âge, et c'est aussi un petit clin d'œil à dans ce propos dont vous parlez, à celui qui a été un peu mon phare secret dans l'écriture de ce disque, qui est Dylan,
Bob Dylan, de son prénom.
Times there are changing, quoi. C'est-à-dire à un moment, soit tu suis, soit tu restes au bord du chemin. Et alors je le dis de manière peut-être moins insolente et plus douce, mais c'est cet appel-là.
C'est une génération, selon vous, qui n'avait pas conscience du rôle qu'elle avait à jouer. Vous avez évoqué notamment dans la présentation, en fait, de cet album, une génération de 68 dont on pensait qu'elle avait fait le boulot et dont on réalise qu'il faut le reprendre.
Ouais, je crois qu'on a un peu, c'est comme ça que moi je le ressens. On a un peu grandi avec à la fois plein de choses que nos parents nous ont transmises, de valeurs fortes, importantes, de prise de liberté, de prise de conscience, de désir d'égalité. Et en même temps, je crois qu'on a été bercé dans cette sensation que nos parents avaient fait le boulot, ouais, et que ils avaient fait la révolution, et puis que maintenant on pouvait jouir de ça. Voilà, je crois que. Elle était loin d'être faite et finie, et puis il y a d'autres enjeux qui étaient présents déjà à l'époque, mais que très peu d'entre nous voyaient, ce sont les enjeux climatiques et qui aujourd'hui nous reviennent en pleine face.
Ah, par exemple, dans un texte finalement qui arrive à combiner une urgence sociale, peut-être qui est de réduire les violences policières, et en même temps la possibilité aussi de pouvoir mieux respirer sur Terre, réunie en un titre, We Can't Breathe.
Moi quand je serai grand, je voudrais juste être vivant. 10 ans sur le pavé, quelques milliers d'adolescents. Je n'ai même pas 20 ans et j'en aurai jamais 50. Et toi qui me regardes passer, tu penses encore au CAC 40. We can't breathe.
C'est rock, c'est frontal, c'est brutal. C'est entre autres la signature du producteur John Parrish, Émilie Loiseau. Et la difficulté de ce titre, c'est d'être un titre engagé sans être un titre horriblement plan-plan et un titre tract, ce qui est quand même votre hantise. Hein.
Oui, c'est clair que j'ai mis du temps à écrire des chansons qui s'emparent de ces enjeux, parce que qu'ils soient migratoires, qu'ils soient voilà, humains, sociaux, écologiques, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une mauvaise chanteuse, chanteuse, j'allais dire, chanson engagée, et qu'une mauvaise chanteuse engagée aussi. mais voilà, parce que c'est trop important, en fait, et que j'ai été élevée par des parents engagés. Donc, j'ai été une citoyenne, je pense, assez éveillée assez tôt, mais par contre, en parler dans mes chansons, en ayant l'impression d'être légitime, et en étant vraiment traversée réellement par quelque chose qui soit vital, ça m'est pas venu tout de suite. Je crois que ça vient en grandissant, ça vient en comprenant mieux le monde, et ça vient aussi quand un monde va de plus en plus mal et qu'on peut tout simplement, on est traversé par ces choses-là et qu'elles elles transpirent de nous, et que du coup, bah oui, une écriture s'impose là-dessus.
C'est la sincérité, en fait, qui est une sorte de garantie, un antidote anti pour moi, mauvaise oui. chanson engagée.
Pour moi, oui. En tout cas, je sais pas si je fais de la une si j'ai fait des bonnes chansons engagées. D'ailleurs, pour moi, on reparle de Bob Dylan encore. C'est quand même celui qui peut-être a fait les chansons qui ont le plus fait trembler les consciences et vibrer les âmes, et qui s'est toujours réclamé comme n'étant pas un chanteur engagé, justement, qu'il a juste été saisi à un moment par une émotion et par un regard et par une réalité, et qu'il a eu des mots qui ont parlé aux autres. Je crois vraiment à ça.
C'est un grand critique rock, Nick Cohn, qui a écrit A Wap Apple Wap Balab Bam Boom, qui dit que finalement Bob Dylan a apporté l'intellect à la pop. C'est ça aussi un peu la démarche du disque, c'est de garder ce chemin, on va dire, massificateur de la pop qui peut s'adresser à tout le monde et d'y injecter vos réflexions, vos considérations intellectuelles.
J'essaie surtout d'être infiniment sincère et intègre, oui, par rapport à ce que je ressens, effectivement, de continuer d'avoir un regard sur le monde. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à prendre la parole ou à écrire juste sur mon quant à soi. Je trouve que ça devient impossible, en fait, pour moi. Ensuite, oui, Dylan a amené, voilà, il est sacré pour moi. C'est quelqu'un on peut pas arriver à un millimètre de sa hauteur à cet endroit-là, parce qu'il y avait une telle justesse, une telle insolence, une telle poésie. C'est à la fois subversif et onirique, enfin c'est inouï, en fait, d'avoir su faire ça, et puis d'avoir l'humilité de dire après, mais maintenant je peux plus faire ça, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire.
Alors c'est peut-être à lui, ou forcément vous pensiez lorsque vous bêchiez en composant cet album, j'ai vu que vous étiez toujours en contact avec la terre, dans cet îlot ardéchois dans lequel vous vous êtes installé avant d'écrire.
Alors, pas tout à fait, puisque l'Ardèche a été longtemps mon îlot d'écriture, mais je n'y vis plus, mais ça reste mon îlot de cœur. Donc, je n'ai pas écrit ce disque en Ardèche, pour le coup. Je suis montreuilloise maintenant, et j'ai écrit ce disque là-bas. Mais effectivement, en bêchant un peu la terre, puisque j'essaye de retrouver une part d'Ardèche dans ces jardins montreuillois. Mais en tous les cas, oui, j'ai eu l'impression d'aller chercher quelque chose de l'ordre d'une forme de jardinage, ou de comme on ausculterait un moteur de voiture, comme c'est Lou Reed qui dit ça, en allant, et puis j'arrêterai sur Dylan après, mais en allant chercher ce dont je parlais tout à l'heure, cette fulgurance, cet onirisme et cette intelligence et ce subversif poétique, en essayant de traduire, en fait, ces chansons et de voir comment ça fonctionne, comment on peut réussir à essayer de trouver des mots comme ça en français, parce que j'avais envie que ce soit essentiellement en français. Et puis évidemment, bon, je savais que personne ne regarderait ces essais parce que c'est trop sacré et puis que ça allait forcément être pas très bien, mais ça m'a permis de, je sais pas, de saisir un langage, en fait, de partir de quelque chose. Voilà.
Il y a beaucoup de mots qui s'enchassent, qui se répondent. Danser sur un volcan, c'est une expression qui revient. Il y a une chanson qui s'appelle Danser sur un volcan, mais elle revient aussi dans d'autres titres. Et puis, on se rend compte dans votre parcours, Émilie Loiseau, et c'est peut-être le patronyme qui fait ça. Vous êtes très inquiète pour les oiseaux. Vous le chantiez déjà dans Pays Sauvage.
pays sauvage, un album pour le coup enregistré entre l'Ardèche, la Réunion avec Daniel Waro entre autres, et puis il y a des collaborations notamment d'Hermaine Dune, Moriarty. Il était question donc déjà de ces oiseaux, et on les retrouve aussi dans une autre chanson de votre album, Le Poids de l'Existence, celui qui paraîtra le 17 septembre, avec de nouveau cette histoire d'oiseaux qui ont disparu, le passé, le monde qui semblait éternel, nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Est-ce que c'est chez vous vraiment le signal de ce monde en transformation et en réchauffement, cette inquiétude sur les oiseaux ?
Oui, alors déjà pour la petite, pour garder le sourire, je me suis rendu compte que très inconsciemment, il y avait régulièrement des oiseaux dans mes chansons et ça m'a fait un peu sourire évidemment vu mon nom, que c'était pas un fait exprès. Et puis j'ai entretenu cette chose parce que je me suis dit ah bah allez on y va, on s'engouffre. En dehors de ça, ça c'est le petit sourire, mais bah bien sûr on est. Je parle de ça dans la chanson Silent. Cette expérience qui a été faite par un ingénieur du son, compositeur, qui est parti, son nom m'échappe là, c'est Bernie quelque chose, mais pas Sanders, mais Bernie quelque chose.
Bernie est toujours vivant.
Voilà, Bernie, qui est parti enregistrer des sons de la nature aux mêmes endroits chaque année, pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années, et qui a fait une exposition.
C'est du field recording.
Voilà, le Grand Orchestre des Animaux, ça s'appelait cette exposition à la Fondation Cartier, et on découvre ce silence progressif qui arrive au fil du temps. Donc évidemment, oui, les oiseaux disparaissent, les espèces disparaissent. C'est très inquiétant parce qu'elles sont le signe que quelque chose tremble et est en déséquilibre.
Et lorsque vous écrivez une chanson et que vous l'interprétez sur scène, ce tremblement, vous avez envie de le communiquer. Vous dites que s'il y a une personne qui, dans le concert, a envie de se révolter, c'est que la partie est gagnée. Donc, c'est pas simplement de la description que vous recherchez, Émilie Loiseau, ou de la compréhension du monde à transmettre, c'est quand même une action.
Oui, c'est une action qui est partie pour ce disque de la recherche d'empathie, en fait, de la recherche chez l'autre, d'aller provoquer chez l'autre. J'ai ressenti ça très fort sur mon dernier disque, Mona, où je parlais d'une histoire très intime de mon grand-père sur un bateau de la Navy, coulé au large de la Crète, et dont il a été rescapé, et je mettais ça en parallèle avec les migrants qui traversent la mer Méditerranée et qui s'échouent sur nos plages. Et en fait, ce parallèle constant que j'ai fait a provoqué chez les gens une parole très forte sur les choses que leurs parents ou leurs grands-parents avaient traversées. Et d'un seul coup, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait une vibration qui se passait. Et ça, je crois que c'est vrai pour tout. C'est ce qui nous tient en vie, en fait. C'est ce qui nous rend vivants. J'en parlais avec mon amoureux hier, en fait. L'empathie est ce qui fait qu'un enfant, un nouveau-né reste en vie. C'est la mère a des sens. L'empathie provoque des réactions physiques chez la mère qui lui permet de tenir en vie son enfant. Et je crois que cette chose-là, elle est vraie pour tout, en fait. C'est notre compréhension du vivant doit passer par ce sentiment intime.
Par la chair, Émilie Loiseau, et aussi le ciel. Icare, cet album sortira le 17 septembre prochain et vous serez en tournée notamment au festival Dinar Opening le 13 août ou encore Nuit Botanique à Bruxelles le 8 septembre. Merci infiniment.
Merci à
vous aviez amené avec vous Dans la forêt de Jean Aiglon. On en reparlera peut-être un autre jour. Livre que vous nous conseillez car nous recommandons ici aussi, de lire pour fêter les 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Camille Pouge-Alaguet et Marie Mougin à la programmation et la préparation de cette émission. Sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc qui nous ont rejoints cet été à la technique. Ce soir, Henri Perec.